se reconnaît en écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
Denis Chessoux.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui essaie aussi de prendre le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Patrick Henry et Basile Bocquer à la technique, et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Alors en attendant avec impatience le Grand Prix de l'Eurovision qui devrait nous apporter la pluie dont les sols ont bien besoin ce soir, restons le nez dans l'atome et dormons tranquille puisque l'autorité de sûreté nucléaire nous l'a confirmé. Ce sont les exploitants des centrales eux-mêmes qui rédigeront les rapports sur la sûreté de leur installation. Comme dirait Woody Allen, la France c'est magique. Alors on retourne sur Terre et d'après le rapport de l'ONG états-unienne World Watch Institute sur l'état des lieux de la filière, catastrophe de Fukushima ou non, eh bien, le nucléaire pourrait avoir son avenir derrière lui. Je pioche quelques chiffres. Nous avons en 2002 444 réacteurs nucléaires en état de marche sur notre Terre. Bon, l'âge moyen est de 26 ans. Pour maintenir la production et même en repoussant l'âge de la retraite des réacteurs à 40 ans, ce qui va être le cas, il faudrait mettre en service une centaine d'engins entre 2015 et 2025, ce qui nous fait pas loin d'une inauguration par mois. Et oui, quand même, sans compter qu'au rythme actuel, les réserves mondiales d'uranium devraient se tarir d'ici 70 ans. Bref, après le pic du pétrole, nous vivons peut-être aussi le pic du nucléaire. Et qu'on le veuille ou non, l'avenir de notre civilisation dopée au kilowattheure est sans doute ailleurs. Économie d'énergie dans les usines, les logements, les transports, changement de mode de vie, et ça je vous l'accorde, c'est quand même le problème numéro un. Et aussi production alternative. Alors vous me direz, bon, bah, les panneaux solaires sont inutiles la nuit, les éoliennes ne tournent que lorsqu'il y a du vent. Ah, figurez-vous que les centrales nucléaires, elles s'arrêtent aussi de temps en temps. Et quand l'une d'entre elles tombe en panne, bah, c'est comme si un millier d'éoliennes s'arrêtaient d'un coup. Et des semaines d'immobilisation chaque année. Alors comment oublier, on va dire, la course à la puissance, les gigawatts, en veux-tu, en voilà, le réseau au bord de la rupture, les longues soirées d'hiver. Un des avenirs possibles, je dis bien un des, c'est la production locale du producteur au consommateur sans faire des centaines de kilomètres dans les lignes à 400 000 volts. Ouais. Des petites installations de production fabriquées en série, simples, sûres et bon marché, ce serait peut-être une des voies. Des indices d'ailleurs qui ne trompent pas. Pour la première fois en 2010, la puissance installée d'énergie renouvelable dans le monde a dépassé celle du parc nucléaire. Les investissements dans les énergies renouvelables se sont envolés. 54 milliards de dollars en Chine, 41 en Allemagne, 34 aux États-Unis. Alors excusez-moi un instant, là je cherche la France. Ah, ça y est, tout en bas du tableau, 4 milliards de dollars, un dixième de nos voisins allemands. Donc ce sont des choix politiques et dans la famille, je mets tous mes œufs dans le panier nucléaire. S'il n'en reste qu'un, ce sera nous. Alors bon, évidemment que les gens d'EDF, d'Areva, de l'industrie nucléaire et les 200 000 emplois ne sont pas encore sur la paille. Pas du tout. La preuve, dans la trentaine de pays membres du club de l'énergie atomique, eh bien la filière continue de boulotter allègrement les deux tiers des subventions publiques. Et ça, dites-moi, c'est pas ce qu'on appelle de l'assistanat ? Ah, heureusement, nous avons le gaz de schiste. Ah bah bien sûr, ça c'est l'avenir, c'est propre, c'est sûr, ça fait pas de dégâts à l'environnement. Non, je plaisante. Et puis alors, nous avons le gingembre pour nous requinquer. Et le gingembre, eh bah, c'est l'affaire de Jean-Marie Pell, souvenez-vous, donc il y a deux semaines. Jean-Marie, vous nous racontiez l'histoire du gingembre et puis vous nous avez promis une suite. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous avons évoqué le gingembre, nous sommes très au point maintenant sur le gingembre. Donc rhizome, on l'a bien compris, donc racinaire, de bonnes vertus médicinales. Pour une épice, alors que les épices ont des vertus donc culinaires.
Absolument.
Voilà. Et maintenant, une histoire autour du gingembre. Peut-être aussi avec des fourmis qui vont entrer en action.
Oui, c'est un petit conte écologique.
Oui.
Alors, sur les fleurs de gingembre, qui sont de grande taille et qui ressemblent un petit peu aux fleurs du bananier, ou aux strelitzia. Vous connaissez le strelitzia. C'est un peu cette allure-là. Alors, ces fleurs, elles sont menacées par de méchantes chenilles qui ont pris la fâcheuse habitude de consommer les parties molles de la fleur. Donc cette fleur serait mal embarquée si elle n'avait pas passé un contrat avec les fourmis.
Bon. Coopération, on y va.
Et les fourmis mettent en fuite le méchant parasite, les méchantes chenilles, et s'installent généreusement sur le gingembre. Et ces fleurs de gingembre ont la gentillesse de les nourrir avec un suc qui est sécrété par des glandes spéciales fourmis. Mais voilà, ce sont des très grosses fleurs. Alors ces très grosses fleurs ne sont pas pollinisées par les fourmis ou par les petits insectes. Comme toutes les très grosses fleurs tropicales très colorées, elles sont pollinisées par les oiseaux, en l'occurrence les colibris. Et les colibris vont chercher dans la fleur le nectar et emmènent le pollen. Et ce sont donc les pollinisateurs attitrés de ces fleurs-là. Pratiquement, ce sont les seuls. Les fleurs à oiseaux sont des fleurs qui, généralement, sont assez fidèles à leurs pollinisateurs. Mais la fourmi, à ce moment-là, quand les colibris arrivent, n'a plus de travail à faire avec les chenilles, parce que les chenilles ont donné des papillons, les papillons ne sont pas dangereux, ils sont partis. Donc les fourmis sont en chômage.
Mais pas du tout.
Non, parce qu'elles vont être réembauchées de nouveau. Parce que, à la fin de la saison, il arrive sur les fleurs du gingembre de très méchantes abeilles, qu'on appelle des abeilles charpentières, je veux dire. Des abeilles qui sont encore plus méchantes que les chenilles. Alors, il faut que les fourmis mettent en fuite ces abeilles. Et alors là, le gingembre a une délicatesse pour les fourmis extraordinaire, voilà qu'il sécrète un autre suc, avec d'autres glandes. C'est-à-dire qu'il sécrète trois choses. Il sécrète un nectar pour les colibris, il sécrète un suc venant d'une glande pour les fourmis en début de saison, et un autre suc venant d'autres glandes pour les fourmis en fin de saison. Comme si les fourmis avaient besoin d'être nourries différemment lorsqu'elles s'attaquent aux chenilles ou lorsqu'elles s'attaquent plutôt aux abeilles. C'est quand même bien fait.
Ah oui.
Donc on pourrait dire que une fleur de gingembre, c'est une sorte de bar à fourmis et c'est un café pour les colibris.
Eh ben écoutez, c'est une jolie histoire donc, d'écologie. On retient bien qu'il y a les mésanges charbonnières et les abeilles charpentières aussi.
C'est ça, absolument.
Jean-Marie Pelt, à très bientôt. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et je rappelle qu'on peut retrouver les épices en format de poche, pocheur et très tonique.
Très tonique.
Voilà.
Je suis aussi tonique pour les livres que le gingembre est tonique pour les fourmis.
Ça nous laisse beaucoup d'espoir.
Merci.
Voilà, donc c'était notre petite page nature du début. Nous aurons une autre page nature à la fin de l'émission avec l'évocation du Martin Pêcheur. Et quand même, entre les deux, notre rencontre avec Jean-Marc Jancovici, Changer le monde, tout un programme dans quelques instants. Saoudade, c'était Étienne Dao sur France Inter. Ah, alors, un ouvrage qui s'appelle « Changer le monde, tout un programme » aux éditions Calman Lévy. Et il est signé Jean-Marc Jancovici, alors ingénieur poli et polytechnicien, mais pas politiquement correct, spécialiste des questions énergie et climat, militant de longue date de la taxe carbone. On connaît, Jean-Marc Jancovici, vos positions de longue date en faveur du nucléaire, que vous considérez d'ailleurs aujourd'hui comme une formule de transition. Mais vous savez aussi nous alerter sur les impasses sociétales et écologiques dans lesquelles nous fonçons. Et alors, votre regard, votre décryptage du monde dans ce livre passe avant tout par l'énergie. Alors bon, on sait que c'est la mère de nos progrès depuis 1750 et aussi source de nos nuisances aujourd'hui et demain. Donc cette énergie, vous rappelez que c'est le mariage de sang que notre économie a contracté depuis plus d'un siècle avec le sous-sol de la Terre. Et évidemment que ça commence à bloquer. Oui, et vous dites de façon très romantique, c'est comme pour le mariage, c'est un repas qui commence par le dessert, youpi. Bon, et dans cet ouvrage, donc, cette notion énergétique, enfin, justement, vous la mettez en avant parce qu'elle a été occultée très longtemps. Et pourtant, tout vient d'elle.
Alors, ce qui fait aujourd'hui la société que nous connaissons en France, en Europe occidentale, aux États-Unis, au Japon, et en fait, pour une large part aussi dans les autres pays, c'est quelque chose qu'on n'a pas très souvent présent à l'esprit parce que à la fois nos cours d'économie et nos cours d'histoire nous ont orientés sur d'autres choses. Quand on pense au progrès technique qui a fait toute l'abondance que nous connaissons aujourd'hui, hein, l'abondance des produits, l'abondance de la nourriture, etc., on attribue ça au mérite des ingénieurs qui ont découvert, amélioré des procédés techniques. Et puis, on considère que la diffusion de ces procédés, ça a été un problème d'économie. Alors, en fait, la diffusion de ces procédés, ça n'a pas juste été un problème d'économie, ça a aussi été un problème d'énergie. Oui. Et ça a été un problème d'énergie parce que l'énergie, c'est par définition la transformation du monde. La définition de l'énergie en physique, c'est le changement d'état d'un système. Donc, l'énergie, c'est la transformation du monde par définition. Donc, pour faire une machine géniale, il suffit de quelques ingénieurs géniaux. Mais par contre, pour que chacun ait la machine géniale, il faut y adjoindre beaucoup d'énergie pour tous, pour que toutes les machines puissent fonctionner chez tout le monde.
Ce qui veut dire que la création de richesses pour vous, c'est la transformation des ressources naturelles au départ.
Oui, si on regarde comment s'exprime la machine économique mondiale, en fait, la machine économique mondiale, elle fait une chose et une seule, elle prend des ressources et elle les transforme pour faire autre chose. Le micro dans lequel je suis en train de parler, le casque que vous avez sur les oreilles, c'est des appareils qui sont faits avec des ressources naturelles transformées.
Et un peu d'intelligence quand même.
Ça a été transformé avec de l'énergie, du travail humain et de l'intelligence.
Mais alors, en fait, on apprend, Jean-Marc Jancovici, qu'en général, la production, c'est du capital et du travail humain. Mais jamais, dans les définitions économiques, on parle de l'énergie.
Alors en fait, la production, c'est des ressources et du travail. Les deux seuls inputs externes au système, c'est des ressources naturelles. Vous n'arrivez pas à faire du PIB avec les ressources qu'il y a sur la planète Mars. Donc il faut la planète Terre et toutes ses ressources pour faire une humanité vivante qui fait du PIB et du travail. Le capital, en fait, c'est juste une boucle de rétroaction interne au système. C'est du travail passé et des ressources passées. Donc si on regarde les vrais apports externes de la machine économique, c'est des ressources et du travail. Transformer des ressources pour en faire autre chose, ça suppose d'utiliser de l'énergie. Au début, on a eu l'énergie de nos muscles. Aujourd'hui, à travers l'énergie fossile, fissile et renouvelable qui est utilisée par les hommes dans les sociétés occidentales, on a accès à des flux de transformation qui sont des centaines de fois ce que peuvent fournir nos muscles.
Alors ce que vous appelez des esclaves énergétiques.
Exactement. Donc en gros, cette puissance de transformation qui, encore une fois, nous a permis d'avoir tous les objets qui sont à notre disposition et des tas d'autres effets dont nous profitons aujourd'hui, ça représente l'équivalent de quelques centaines d'esclaves à la disposition de chaque personne qui nous écoute.
Ah, écoutez ce son qui est doux à nos oreilles. Eh ben oui, évidemment, c'est la machine à vapeur. Merci donc à Denis Papin, donc entre autres, d'avoir découvert ce principe et ce phénomène. Racontez-nous maintenant, Jean-Marc Jancovici, vous avez déjà commencé, mais là on a une véritable rupture. Et puis donc, c'est le début, on va dire, de la corne d'abondance qui se déverse sur l'Occident.
Oui, pour avoir un objet, je vais prendre l'exemple d'une table. Il faut des ressources, ça peut être du bois, ça peut être du métal, ça peut être du plastique, et puis il faut être capable de la transformer, cette ressource, parce que la nature ne nous donne pas des tables toutes prêtes à l'emploi. Pour transformer cette ressource, il faut donc de l'énergie. Quand on utilise aujourd'hui des machines qui utilisent elles-mêmes de l'énergie fossile, du charbon, comme les premières machines à vapeur, et comme encore aujourd'hui beaucoup les centrales électriques, ou bien des moteurs, le kilowattheure mécanique qui va transformer les ressources, on le paye quelques dizaines de centimes. Si pour transformer les mêmes ressources, on utilise aujourd'hui non pas une machine, mais un homme payé au SMIC, on va payer ce kilowattheure mécanique quelques centaines à quelques milliers d'euros. Et ce qui aujourd'hui a fait la baisse du prix réel des objets, le prix réel c'est le temps qu'il faut travailler pour se les payer, c'est l'augmentation formidable de la quantité d'énergie qui a été mise à la disposition de chacun d'entre nous. Et donc ça a fait baisser le prix réel des objets. Et quand on regarde aujourd'hui le temps qu'il faut travailler pour se payer absolument n'importe quoi qui était déjà disponible il y a un siècle, une table, une chaise, une paire de lunettes, une chemise, un mètre carré habitable, vous vous rendez compte que le prix réel de n'importe quoi, c'est-à-dire le temps qu'il faut travailler pour se le payer, a été divisé par 50 à 100, et ça c'est grâce à l'énergie.
Alors on voit ça absolument dans tous les domaines. Vous dites que tout est sous-produit, donc des énergies fossiles. On peut prendre l'exemple des villes. Vous avez un couplet sur des villes à la campagne, et vous dites, mais ça y est, c'est déjà fait, et ceci grâce à l'énergie en fait.
Oui. La fonction d'une ville, c'est d'être un lieu d'échange. On le voit bien quand on se promène en France, les vieux villages ou les vieilles villes, partout, vous avez au centre ce qui permet les échanges de biens physiques, la place de marché, les échanges de valeurs, la mairie ou son équivalent, l'église ou son équivalent. Donc l'échange, c'est la fonction même d'une ville. Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie et que les gens n'ont à leur disposition que leur paire de jambes ou, pour les plus riches, les jambes des chevaux, eh bien, il faut être près, très près les uns des autres pour que les échanges soient efficaces. Et donc, les cœurs de ville qui ont été construits il y a 1000 ans ou il y a 2000 ans sont extrêmement denses. Hein. Les gens sont entassés les uns sur les autres. Vous avez des petits immeubles qui se jouxtent les uns les autres, etc. Et c'est comme ça partout dans le monde. C'est-à-dire que partout dans le monde où des villes ont été construites à l'époque de l'énergie rare, les cœurs de ville sont denses. Quand on commence à avoir plein d'énergie à sa disposition, on peut faire deux choses. On peut augmenter les distances entre les gens sans diminuer le temps des échanges, parce qu'on se met à avoir des voitures ou des moyens mécanisés quelconques qui permettent de se déplacer aussi vite, ou exactement en utilisant aussi peu de temps, mais en habitant le plus en plus loin les uns des autres. Et on peut se mettre à habiter en logement individuel, où vous avez plus de surface de mur en contact avec l'extérieur que dans les logements collectifs. Et donc il faut plus d'énergie pour chauffer tout ça. Et quand on a eu donc de plus en plus d'énergie, on s'est mis à faire les banlieues étalées, qui permettent de conserver la fonction d'échange, tout en consommant de plus en plus d'énergie et en augmentant l'espace, parce qu'on est quand même des animaux qui aimons bien avoir un peu d'espace autour de nous, et en augmentant l'espace qu'on avait autour de nous. Dans les pays qui ont commencé à construire leurs villes à l'époque où l'énergie était déjà très abondante, et l'archétype c'est les pays du Nouveau Monde, hein, l'Australie, le Canada, les États-Unis, eh bien on se rend compte qu'ils ont tout de suite pris l'option ville étalée. Et pour ceux d'entre nous qui ont déjà eu la chance ou la malchance, je ne sais pas comment il faut dire, d'aller visiter Los Angeles ou Houston, en fait vous cherchez le centre, parce que oui. C'était essentiellement une grande banlieue qui fait 100 km de long et qui ressemble à nos banlieues à nous. Et c'est ça, une ville dans le monde de l'énergie abondante.
Trêve de balivernes. Il n'y a aucune chance que la circulation se fluidifie au pont de Saint-Cloud vers la banlieue.
Ça, c'est la ville aujourd'hui donc, qui s'est merveilleusement étalée. En revanche, cette ville donc dense et ramassée, ce sera peut-être aussi la ville de demain. Ça passe faire en 8 jours, mais là, on a véritablement une bascule.
Alors moi, je dirais plutôt qu'on a une impasse aujourd'hui, dans le sens où personne n'imagine qu'on va faire dégonfler les villes et personne ne s'imagine qu'on va s'organiser pour le faire. Mon hypothèse de base pour le moment, c'est que quand même, il va falloir le faire. Une autre chose que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, c'est que finalement, le fait d'avoir mis 70% des gens dans des activités dites de service, c'est aussi le résultat de l'abondance énergétique, parce que ça n'est possible qu'à partir du moment où on a confié les tâches productives à des machines qui utilisent très peu d'emplois et beaucoup d'énergie pour assumer les tâches productives à notre place.
D'ailleurs, vous rappelez très bien que quand la consommation d'énergie par personne est faible, la quasi-totalité de la population active est agricole.
Oui, on le voit très bien dans tous les pays du monde aujourd'hui. Hein, alors, on ne peut pas montrer un graphique à la radio, mais
on le comprend.
On le voit très bien. En gros, la proportion des gens qui travaillent dans l'agriculture dans les pays de la planète, c'est une fonction inversement proportionnelle de la quantité d'énergie dont les gens disposent.
Jean-Marc Jancovici, pour poursuivre dans le domaine de la ville, ça va être quoi? Comment ça bouge hein?
Alors, tant qu'on a plein de machines qui font les tâches productives à notre place, pour commencer dans les champs, et pour continuer dans les usines, on peut mettre tout le monde dans un bureau pour gérer toute cette production, ou gérer les échanges qui découlent de cette production, ou gérer le financement des échanges qui découlent de toute cette production. Et donc là, on est en train d'écrire l'histoire. Hein, la valeur ajoutée était d'abord dans la terre, puis elle a été dans l'industrie, puis elle a été dans les gens qui s'échangent les industries, c'est-à-dire les financiers, et tous ces braves gens qui sont dans les services sont en ville, qui se sont par ailleurs étalés. Dans un monde dans lequel on se retrouve sous contrainte énergétique, ce qui va nous arriver, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a toujours de quoi assurer un emploi à 70% de la population pour travailler dans un bureau? Et mon hypothèse de base, c'est que c'est pas sûr du tout. Ça veut dire que le premier problème des villes, avant même d'être les coûts de transport des gens qui travaillent dans les, qui habitent dans les banlieues, ça va tout simplement être le fait que la quantité d'emplois que vous allez pouvoir offrir en ville va baisser. Mmh. Et ça, ça veut dire que si on ne retourne pas, ça peut paraître très provocant comme non, proposition, mais que si on ne retourne pas une partie des banlieues au gazon, oui, on risque de se retrouver avec des poches de pauvreté croissantes et donc des poches de déstabilisation croissantes du système démocratique, sans compter le fait qu'on créera des poches croissantes de malheur et que c'est jamais extrêmement souhaitable.
Eh bien, on vous propose sur France Inter, avant de retrouver Jean-Marc Jancovici, un peu d'énergie, mais musicale cette fois, c'est Vincent Liben et Berry, chanteuse de son état, pas forcément originaire du centre, on verra ça. Mademoiselle Liberté, c'est tout de suite.
Mademoiselle Liberté, avec ta vieille Volvo déglinguée, tu roules à travers champs avec l'idée de rattraper le temps.
Mademoiselle Liberté, dans mes grands yeux tu as cru pouvoir te noyer à condition de laisser expirer l'air pur
qui comme toi, te contre moi, souffle le chaud et souffle le froid. Qui comme toi, te contre moi, souffle sur terre, agite la mer. Dans tes grands yeux bleus j'ai cru pouvoir me noyer à condition de laisser expirer l'air pur.
Mademoiselle Liberté, avec ma vieille Volvo déclinquée, je roule à travers champs avec l'idée de rattraper le temps perdu.
Qui comme toi, contre moi, souffle le chaud et souffle le froid. Qui comme toi, tout contre moi, souffle sur terre, agite la mer. Qui comme toi, tout contre moi, souffle le chaud et souffle le froid. Qui comme toi, tout contre moi, souffle sur terre, agite la mer.
Ça tourne bien, ça c'est tout à fait agréable. Merci Muriel Pérez d'avoir choisi donc Vincent Liben et Berry. Mademoiselle Liberté, à un moment elle disait qu'elle roulait dans une Volvo déglinguée, donc elle n'a pas bénéficié de la prime à la casse, qui d'ailleurs pour être considérée aussi comme une hérésie environnementale, on en avait déjà parlé. Alors, nous sommes, on le sait, Jean-Marc Jancovici, en panne de nouveaux projets de société. Là j'enfonce une porte ouverte. Donc vous militez vraiment pour une société entièrement tournée vers une économie décarbonée, ce qui implique quand même de tout repenser. On n'a pas encore parlé quand même de ce couple infernal et prospère qu'est climat-énergie. Alors faites-nous un petit rappel, et puis quelles sont les données dont nous disposons, et puis que faire pour passer à autre chose avec le moins de casse possible, avec une humanité croissance qui a soif de développement et d'énergie.
Alors, les données que nous avons sont assez simples. La question du changement climatique est connue depuis un siècle et demi. La contestation sur le changement climatique, elle n'est pas apparue au moment où on a compris ce que c'était qu'un climat qui changeait sous l'effet des émissions humaines de gaz à effet de serre. Ça date d'il y a plus d'un siècle. Elle est apparue à partir du moment où on a compris ce que ça supposait sur le changement des habitudes. Oui. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que de la contestation scientifique a commencé, enfin pseudo-scientifique, pardon, a commencé à apparaître. Il faut rappeler que le plus grand imposteur en la matière, qui s'appelle Claude Allègre, en 1988, il écrivait que la mise d'un excès de CO2 dans l'atmosphère était un danger majeur.
Oui.
Ah oui, oui, oui.
Oublié, ça.
Oui, oui, c'est publié dans 12 clés pour la géologie, chez Belin. Donc non, il écrivait tout à fait ça. Donc, le changement climatique, qu'est-ce qu'on sait? Et quand je dis « on », c'est qu'est-ce que la communauté scientifique compétente sait? Elle sait que le CO2 a des raies d'absorption dans l'infrarouge. Elle le sait depuis très longtemps. Elle sait que quand on rajoute du CO2 dans l'atmosphère, cette atmosphère devient plus opaque aux infrarouges émis par la surface planétaire. Elle sait que cette affaire-là confine l'énergie près du sol et donc augmente la température près de la surface et corrélativement du reste diminue la température de la stratosphère, ce qui, rien que ça, suggère que tous les phénomènes extrêmes vont augmenter. Quand vous augmentez la différence de température entre le sol et la stratosphère, vous avez envie de penser que ça va augmenter la puissance ou des ouragans ou des tornades ou des orages, etc. Et un certain nombre de choses qu'on observe depuis plusieurs décennies sont très cohérentes avec cette évolution attendue. La science dit qu'en doublant la quantité de CO2 dans l'air, l'ordre de grandeur de ce que vous provoquez est une variation de la température planétaire de quelques degrés. Et enfin, la science vous rappelle, et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières décennies grâce à une technique d'analyse qui s'appelle la spectrométrie de masse, qui est quelque chose qui est une technique relativement récente. Elle vous rappelle, la science, que quelques degrés de variation de la moyenne planétaire, c'est ce qui nous sépare d'une ère glaciaire. Donc elle vous rappelle que quand la Terre est passée de la dernière ère glaciaire...
Il y a 20 000 ans à peu près, à la fin.
Le maximum était il y a 20 000 ans, à l'époque des mammouths à poils laineux, et qu'on est arrivé dans l'état environnemental que connaît la planète, j'allais dire aujourd'hui, mais aujourd'hui il a déjà varié par rapport à il y a un siècle et demi.
Enfin, on n'a que 5 degrés, quoi, en fait.
Voilà. Il n'y a que 5 degrés.
Ouais.
Et ces 5 degrés ont suffi pour transformer la France, qui ressemblait au nord de la Sibérie actuelle, en ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce que la science vous dit, c'est que si on cherche à faire ce genre d'expérience sur un siècle seulement, on va se retrouver avec une perturbation qui excédera de très loin les capacités des gens qui auront à la gérer. Donc ça va déboucher sur un système chaotique, méchant, violent, prédateur, tant du côté de l'énergie que du côté du climat. On est aujourd'hui en train de jouer avec la paix et l'espérance de vie. C'est avec ces deux trucs-là qu'on est en train de jouer.
Vraiment, si tu veux mon avis, on pourrait tout aussi bien appeler ça le grand frisson ou le retour du blizzard. Alors je pose la question, comment on sait que c'est une période glaciaire?
Parce que il y a de la glace partout.
Eh bien, dis donc, l'atmosphère se refroidit nettement.
Alors ça va être quoi? Ça va être au départ des taxes, du rationnement, parce que ça, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire que dans le discours dominant,
il
n'y a pas...
En Europe, il se trouve que le choix est très clair et qu'on a un choix sans regret. Évident, parce que de toute façon, ce qui est à l'origine des émissions de CO2 ne se trouve pas chez nous. Oui. Ce qui est à l'origine des émissions de CO2, c'est pétrole, gaz et charbon. En ce qui concerne le pétrole, l'Europe en importe 75%. Le reste vient de la mer du Nord, qui est en déclin de 5 à 8% par an. Ensuite, le CO2 vient du gaz. Le gaz, là c'est l'inverse, l'Europe produit 60% de son gaz venant de la mer du Nord, mais cette production est en déclin. Ce qui, soit dit en passant, fait que tous les gens qui pensent qu'aujourd'hui on peut remplacer en un pour un la production nucléaire en Europe par de la production au gaz, à mon avis se leurrent, parce que le gaz il n'existe tout simplement pas pour faire ce genre de choses. Même transitoirement. Et enfin, il y a du charbon. L'Europe possède 1,5% du charbon mondial. Il y a 8 pays dans le monde qui possèdent 90% du charbon mondial.
Les États-Unis, la Chine,
l'Inde, l'Australie. En tête, les États-Unis, puis la Russie. Donc on retrouve les deux frères ennemis de toujours.
Et le charbon, c'est à peu près 50%, semble-t-il, de la production énergétique de l'électricité dans le monde.
Alors, le charbon, c'est 40% de la production électrique dans le monde. Et si on met bout à bout les centrales à charbon qui font à peu près 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout confondu, méthane, protoxyde d'azote, CO2, tout, et les centrales à gaz qui en font à peu près 5, on se retrouve avec le fait que la production électrique, ça fait pas loin du quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc l'Europe est, sur une trajectoire sans regret si elle commence à s'occuper sérieusement du problème. Et si elle veut pas s'en occuper sérieusement, elle est malheureusement sur la trajectoire la plus contrainte de toutes les zones de la planète pour s'en occuper pas volontairement. Parce que de toute façon, les émissions du haut transport vont baisser. Ça a déjà commencé depuis 2005. De toute façon, les émissions du haut gaz vont baisser dans pas longtemps. Tout ça va avoir, puisque l'énergie, c'est l'économie, Ça veut dire que la diminution involontaire de nos émissions, si on n'accepte pas de s'attaquer frontalement au problème, se fera à coup de récession. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, 2008 est une très belle illustration de la contrainte involontaire qui s'applique dans un précédent ouvrage qui avait été publié en 2006, Le plein s'il vous plaît. On disait que la régulation involontaire du problème passerait par des récessions, des crises bancaires et des crises monétaires. On avait écrit ça en 2006 et malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'était pas très loin de ce qui vient de s'observer sous nos yeux.
Vous faites d'ailleurs assez souvent référence, si vous voulez, à la limite de la croissance, hein, c'est-à-dire ce que le Club de Rome avait sorti en 1972. Ils n'avaient pas toutes les données scientifiques, mais ils prédisaient quand même un effondrement de l'humanité dont, du côté du 21e siècle, parce qu'ils avaient donc sorti ce modèle d'un monde fini, alors qu'on était en pleine croissance dans tous les sens. Donc vous dites aussi que ce qui leur manquait peut-être, c'est une unité de finitude du monde. Mais derrière tout ça, il y a la croissance ou la paix. Et déjà, quand on relit ces limites de la croissance, bah, pratiquement tout y est, quoi.
Oui, tout y est. Tout y est pour deux raisons. D'abord parce que la physique n'a pas changé depuis.
Non.
Parce que les mathématiques n'ont pas changé depuis. Donc ce qui a changé depuis, c'est qu'on connaît un peu mieux les limites du monde. On a eu une appréciation quantitative des limites qui s'améliore, mais les ordres de grandeur, on les connaissait déjà à l'époque. Donc c'est clair que ce qu'avait dit l'équipe Meadows du MIT, qu'on a vulgarisé sous le nom de rapport du Club de Rome, c'est que tant qu'on cherche à avoir la croissance perpétuelle de la transformation de ressources naturelles qu'on appelle le PIB, eh bien, le système s'effondre sur lui-même au cours du 21e siècle. Et il peut s'effondrer soit par défaut de ressources, soit dans l'excès de ressources. Et à ce moment, on crée tellement de pollution que c'est ça qui tue le système. Et dans le dialogue qu'on est en train d'avoir, c'est le changement climatique. Donc en d'autres termes, le carré des syllas dans notre affaire, c'est où on n'a pas assez d'énergie et dans un système non régulé, c'est ça qui provoque l'effondrement. Où on en a trop, et comme c'est essentiellement de l'énergie fossile, parce qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie dans le monde, c'est de l'énergie fossile. Hein. Le débat qu'on a eu en France sur Fukushima nous masque la réalité, qui est que le vrai sujet, c'est l'énergie fossile.
C'est possible,
hein. Oui. Ou bien on en a trop, et à ce moment, ce qui tuera le système, mais plus tard, tuera, entre guillemets, hein, c'est le changement climatique.
Ce qui veut dire que bon, les valeurs à peu près sûres du 21e siècle, c'est toujours la rareté, c'est la sobriété. Est-ce qu'on est capable, alors là je parle presque intellectuellement, Jean-Marc Jancovici, en état d'anticiper?
Alors je pense que collectivement, très mal. Ce que j'espère avec ces quelques pages, c'est transformer cette contrainte en défi. C'est-à-dire qu'on observe qu'historiquement, les seuls moments où les hommes ont été capables de s'auto-infliger de grandes privations en se disant « au fond, c'est pas très grave parce qu'on a l'esprit occupé ailleurs », c'est quand ils ont estimé qu'ils avaient des défis absolument formidables à relever.
Oui. Quand ils sont au pied du mur, quoi. Ou...
Exactement. Oui. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin, c'est quoi les plans d'action qui permettent de s'attaquer à ce problème.
Alors qu'est-ce que l'on dit là-dessus? Parce que l'humanité a toujours fonctionné plus ou moins par chaos, plus ou moins effectivement par choc comme ça frontaux. Qu'est-ce que ça peut être alors?
Alors, ce que je dis déjà, c'est que l'humanité n'a jamais innové que sous la contrainte. Donc, ce que j'ai essayé de défendre à la fin de ce livre, c'est que finalement, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de vendeurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui aient A, bien compris le problème. Alors là, malheureusement, on en est encore très loin dans la classe politique. Et B, qui soit capable de transformer ça en discours vendeur sur des défis à relever, parce que le seul truc qui est capable de nous exciter un peu, c'est les défis à relever. Et mon pari, mais je suis peut-être excessivement naïf encore, c'est qu'à partir du moment où on est capable de proposer des défis à relever, et un défi à relever, c'est un truc concret.
Alors là, nous concrètement, ça va être quoi? Faire autant avec moins? Il va falloir de l'anticipation, il va falloir du partage, parce que là on parle d'un milliard d'Occidentaux, mais il y a quand même tout le reste de la planète, hein, donc, derrière.
Alors le partage, il passe par le fait que nous on soit capable de changer, parce que si vous avez 10 saucisses dans votre assiette et que votre voisin en a une, vous pouvez lui expliquer que c'est pas bon pour le cholestérol de manger 10 saucisses, il aura quand même envie d'en avoir 10. Donc il est évident que dans un monde où la circulation des informations est instantanée, vous ne pouvez pas faire l'économie de changer vous-même si vous voulez que les autres changent.
Le monde change de peau, sera-t-il laid ou bien beau, couvert de couleurs peinture ou de vert nature. Le monde change de peau, roudoudou et berlingot, sera-t-il doux et sucré comme la liberté. Qui joue quand les enfants s'amusent à mettre des pierres, des méduses sous leurs pieds.
dans les journaux et sur les ondes. On sent qu'un monde vient au monde, qu'il soit trop tard ou trop tôt. Le monde change de peau, le monde change de peau.
Et en même temps, on est dans une société où on essaye de faire reposer une espèce de culpabilité sur l'individu. Et c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de systèmes qui s'exonèrent un peu de cela. On est face à une financiarisation qui est complètement hors sol, qui est complètement déconnectée, vous l'avez très bien analysé dans votre ouvrage, des réalités physiques, des réalités énergétiques et autres. Moi, je le résume par l'acte de tri. Bon, c'est très bien, c'est indispensable de le faire, mais on est quand même dans l'écume des choses avec ça. Donc, il faut quand même une rupture qui soit donnée un peu plus haut.
Oui, alors, c'est quoi l'échelon le plus haut qu'on puisse rêver en ce qui concerne les affaires planétaires ? C'est les instances intergouvernementales. Il se trouve qu'aujourd'hui, les instances intergouvernementales ont des mandats qui sont extrêmement restreints. Les seules entités qui aient de vrai plein pouvoir, c'est au niveau des États que ça se passe. Donc, à mon avis, il faut commencer au niveau des États. Et puis, ma petite expérience de consultant chez ces affreux salauds de pollueurs que sont les gros capitalistes me montre que, pour que la greffe prenne, quand vous essayez de changer un peu ce qui se passe, il faut conjuguer un discours global avec, au début, des porteurs d'intérêt au niveau des affaires opérationnelles qui ont envie de mettre ce truc-là en musique. Et donc, si on veut faire changer la planète dans son ensemble, mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de commencer par trouver quelques pays qui disent « Écoutez, les amis, vous, faites ce que vous voulez, mais nous, on s'y colle, puis vous allez voir que ça marche. » Et je suis sûr que le meilleur pari qu'on a à faire en Europe, c'est de faire celui-là, parce que de toute façon, on n'en a pas d'autre de pari. Tout projet politique aujourd'hui qui présuppose que la consommation d'énergie va continuer à croître fera faillite. Oui. Donc, à partir du moment où on n'a pas d'autre choix, je pense qu'on est justement acculé dos au mur, donc il va falloir qu'on innove fortement, rapidement.
Qu'est-ce que c'est en innovation, par exemple ?
Alors, quelques exemples, je pense qu'il va falloir faire dégonfler les villes. Alors, pareil, complètement iconoclaste, dit comme ça, il a fumé la moquette, etc. On se rend compte que c'est pas sûr qu'il y ait les emplois solvables, qu'il y ait les gens solvables, pardon, en ville. Et si c'est les gens sont soit en ville, pas solvables, c'est-à-dire qu'il y a des bidonvilles, soit ailleurs et un peu plus solvables, ailleurs, il y a les ressources. Donc, mon sentiment, c'est qu'une partie de la transition consiste à exploiter mieux ou plus, dans certaines limites, les ressources qui sont en dehors des villes. Et donc, on va voir le développement d'un certain nombre d'activités où on travaillera pas juste avec nos doigts et le clavier d'un ordinateur et notre cervelle, mais un peu plus avec nos bras et nos jambes, dans des activités hybrides, typiquement l'artisanat. Et l'artisanat, c'est pas nécessairement du travail de force. Il va y avoir un vrai sujet sur l'agriculture. Mon sentiment, c'est que l'agriculture qu'on a bâtie n'a de sens que comme premier maillon d'une chaîne derrière laquelle vous avez un système qui est sous perfusion énergétique, parce que vous avez besoin d'industrie, parce que vous avez besoin d'emballage, parce que vous avez besoin de transport, parce que vous avez besoin, etc. Alors, il ne faut pas supprimer tout ça, évidemment, mais il va falloir modifier tout ça pour le rendre plus résilient face à la contrainte énergétique.
Vous le résumez d'ailleurs avec la viande.
Oui, alors il va aussi y avoir, à mon avis, une modification des régimes alimentaires, oui. Et il faut l'encourager, et il faut l'accompagner. Il faut dire aux gens, vous savez, si vous mangez une salade de lentilles au lardon, c'est très bon. Et ça, ce n'est pas juste un projet sur un objet technique. C'est un projet plus large. Ça veut dire que vous changez les programmes d'enseignement, ça veut dire que vous changez les structures de distribution, ça veut dire que vous changez les modèles économiques, ça veut dire que, etc. Enfin, c'est beaucoup plus large que ça. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez seulement un jeune sur trois qui veut s'installer dans l'agriculture maraîchère, qui trouve les terres pour s'installer. Donc, vous avez déjà une demande pour que le système change. Il va y avoir un effort faramineux à faire sur les filières industrielles. Il va y avoir un vrai sujet diplomatique, parce qu'il faut savoir avec qui s'allier et comment, et avec qui essayer de rester à distance et comment dans ce genre de monde. Il va y avoir un vrai sujet économique qui reste. Le changement de la fiscalité est toujours une question qui n'a pas été traitée correctement. Il y a eu une tentative de taxe carbone, etc. Il va y avoir un vrai sujet sur les indicateurs qu'on utilise pour mesurer le progrès. Et pour le moment, c'est pareil. Changer le PIB par autre chose, je ne sais pas quelle est la taille du chantier, mais à mon avis, le chantier est assez vaste. Il va y avoir un vrai sujet sur les politiques de transport et sur les infrastructures de transport. Donc en fait, c'est touché à tout. Il va y avoir un vrai sujet géopolitique, parce que nos amis de l'autre côté de la Méditerranée, là, qui soit dit en passant, sont en crise à cause du couple énergie-climat, entre autres choses, parce que ce couple énergie-climat a mis une contrainte sur la quantité de céréales disponibles dans le monde, parce qu'on en utilise une partie pour faire des agrocarburants, parce qu'à cause de la canicule, la Russie a cessé d'en exporter. Et quand vous appliquez ça à des pays qui importent la totalité ou presque de leurs céréales...
C'est le cas de la Tunisie.
C'est le cas de la Tunisie, de l'Égypte aussi. Hein, et où l'alimentation représente plusieurs dizaines de pourcents du budget des ménages, et ben vous avez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens gueulent parce qu'ils ont faim. Et quand vous avez en face de ça un pouvoir politique qui n'est pas très légitime, et ben ça pète. Et donc, 2008 est une crise énergétique. Je dis que 2011, au Maghreb, c'est une crise climato-énergétique. On a un vrai sujet aussi avec nos amis de l'autre côté de la Méditerranée qui doit prendre place dans ce projet d'ensemble. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si on prend le problème par le bout énergie-climat, en fait, on a la colonne vertébrale d'un programme politique.
Povos esquecidos que o levaram numa cabana de bambu num lugar perdido. E tem que se adaptar, tem que comer tudo que oferecem. Agradecer o dia fazendo uma prece. E depois de tanto viajar, decide que tem que acalmar. Tá pronto pra asfixar, encontrar alguém pra tu te ensinar. Num dia de chuva, se deparou com um garoto na rua e lhe ensinou. Me ensinou a oração para sempre recitar.
Ça ne vous a pas échappé, donc Flavia Coelho, qui s'interprétait Bossa Muffin, n'est pas complètement née en Bretagne, donc évidemment cette jeune femme de Rio donc, nous régalait. Et on va terminer avec vous, Jean-Marc Jancovici, dans cette société court-termiste, hein, donc très bien décrite d'ailleurs par Tocqueville. Vous qui prenez quand même le pouls d'une société avec ce côté qui peut être carpe diem, les gaz à effet de serre et le déluge après moi, et heureusement, beaucoup de nos contemporains ne sont pas comme ça, sont éveillés, sont actifs sur le terrain en permanence, sur le sujet de la transition. Et quand même, il y a une grande partie de la classe politique qui d'ailleurs est loin d'être inconsciente, mais qui adoube peu ou prou, on va dire, le même système de consommation, production, usure de la nature, pollution, déchets, et ça donne quand même peu envie d'anticiper.
Quand vous regardez ce que c'est que l'agenda d'un élu une fois qu'il est en fonction, vous vous rendez compte qu'il est obligé de fonctionner avec le logiciel qu'on lui a fourni quand il a fait ses études. Et la formation continue d'un élu, c'est une quadrature du cercle, parce que les gens, ils sont sollicités en permanence. Et donc, en fait, ils vont avoir une formation continue sur les sujets sur lesquels ils participent à des travaux, quand ils sont dans une commission parlementaire sur un sujet, quand ils sont en charge d'un sujet particulier au sein d'une collectivité locale. Et en dehors de ça, ils savent ce qu'il y a dans le journal. Par ailleurs, l'essentiel des élus dans ce pays n'ont pas de formation scientifique. Quand vous regardez, et on peut même regarder quelle est la profession des gens qui sont présidents de la République ou assimilés dans les pays de l'Occident.
Ils sont avocats d'affaires.
Exactement, ils sont tous avocats. Donc, avocat, vous pouvez très bien devenir avocat sans savoir ce que c'est qu'un proton, sans savoir ce que c'est qu'un atome de carbone, sans savoir ce que c'est qu'une molécule de CO2 et sans savoir ce que c'est qu'une raie d'absorption dans l'infrarouge. Et du reste, il n'y a pas ça dans leurs études. Donc, au moment où ces gens-là arrivent en fonction, ils n'ont pas les bases pour comprendre rapidement le problème qu'on est en train d'évoquer.
Et on leur fait des notes en deux pages.
Si vous faites une note en deux pages, vous leur dites une fraction ridiculement faible des informations qu'il faut qu'ils aient à leur disposition pour bien comprendre de quoi on est en train de parler. Pour donner un exemple, quand vous passez de la littérature scientifique que vous avez sur le changement climatique à la note de deux pages, vous appliquez le même taux de compression de l'information que si vous passez de 100 heures de cours à 3 secondes. Donc c'est juste pas possible.
Vos espoirs, c'est quoi ?
Alors, mon seul espoir, et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, alors, qui aime bien châtie bien, je vais commencer par en dire un peu de mal, mais c'est la sphère médiatique. Parce que arriver à faire comprendre, à faire accepter, pardon, aux médias qu'ils ont une très forte part de responsabilité dans les choix collectifs que nous opérons, parce que c'est eux qui sont en charge de la quasi-totalité de l'information que les citoyens reçoivent quand ça n'est plus directement dans leur sphère professionnelle, eh bien, ils n'aiment pas ça. Quand vous dites à un journaliste, mon vieux, t'es responsable de ce qui se passe, il dit non, moi j'ai aucune responsabilité dans cette affaire, je suis juste un canal qui passe l'information, etc. Moi, je dis non, je suis désolé, l'information il y en a plein, c'est toi qui fais le tri, donc tu choisis, oui, c'est toi qui
notre boulot,
voilà, vous avez choisi de m'inviter, c'est un choix, faut l'assumer, etc. Donc vous avez une part de responsabilité. Et mon espoir, c'est que finalement ils se diront, même s'ils me disent non, ils penseront oui, qu'ils se diront, faut qu'on parle du sujet. Et là, par contre, le court-termisme des élus fait qu'à partir du moment où le sujet est sur la table, sur le plan médiatique, ils deviennent forcés de s'en occuper. Même s'ils n'ont toujours rien compris, ce qui n'est pas le cas pour certains d'entre eux, mais même si globalement, ils ont toujours une très mauvaise appréhension du problème, ils sont forcés de s'en occuper. Donc ça deviendra un problème du moment et ils seront forcés de regarder. Donc mon espoir, avec ce bouquin qui sort pas très longtemps avant la prochaine campagne présidentielle, c'est que le sujet sera sur la table et que du coup, il va monter en puissance.
Donc une contribution parmi d'autres, hein, rien de plus, après vous faites votre avis. Jean-Marc Jancovici, Changer le monde, tout un programme aux éditions Calman Levy. Et l'émission n'est pas finie.
L'agenda de CO2 Mon Amour.
Tenez deux anniversaires. D'abord à Nausicaa, donc nous sommes à Boulogne. Nausicaa fête son 20e anniversaire. Donc ça va être toute la semaine et la semaine prochaine au Centre National de la Mer. Je ne vous détaille pas toutes les manifestations, mais ils font un boulot vraiment très très bien depuis très longtemps. Et en particulier en direction des jeunes. Et un autre anniversaire, eh ben, ce sont les 10 ans des AMAP aujourd'hui. Les associations de maintien d'une agriculture paysanne avec vous Gaëtan Vallée, coordinateur de l'Alliance Provence. Quelle est l'origine de cette idée donc des AMAP?
C'est une idée qui vient finalement du Japon, qui a été lancée par des mères de famille qui, il y a une quarantaine d'années, prenaient conscience des premiers effets des pesticides sur la santé de leurs enfants et qui ont pris contact avec des paysans japonais et leur ont demandé « on veut des produits bio, on est prêt à lancer des contrats avec vous ». De là à germer l'idée et les premiers principes de solidarité avec des producteurs. Ça s'appelle les Teike. Ça s'est essaimé ensuite en Suisse et aux États-Unis et c'est arrivé en France finalement 30 ans après, donc en 2001 en Provence.
Donc ça a fait les petits et maintenant il n'y a pas qu'en Provence, ça se passe pratiquement sur toute la France?
Alors sur toute la France et même le concept des AMAP a été repris un peu partout en Europe et dans certains pays du nord de l'Afrique.
Combien d'AMAP aujourd'hui à peu près?
Alors en Provence, 150 groupes de consommateurs et en France, on évalue à 2000 groupes sur tout le territoire.
Alors le problème que l'on connaît, on imagine bien que c'est le foncier lorsque l'on est maraîcher, quand on est dans une AMAP, c'est de trouver de la terre?
Exactement. C'est vrai que si la problématique à l'époque, c'était d'abord de maintenir des paysans, il y a toujours 4 exploitations qui disparaissent en Provence chaque jour. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est surtout d'aider à des jeunes de s'installer et donc de sensibiliser les collectivités pour préserver des terres agricoles.
Gaëtan Vallée, AMAP ne signifie pas forcément bio.
Alors, ça ne signifie pas obligation de certification. Par contre, il y a respect d'une charte, donc la charte des AMAP. Et dans la charte, il y a des engagements en termes de transparence et de non-utilisation des pesticides et d'engrais chimiques de synthèse.
L'avenir, qu'est-ce que ça va être pour vous ?
Eh ben, l'avenir, c'est à la fois accompagner un développement. C'est vrai que les circuits courts sont en pleine mutation et en révolution aujourd'hui en France depuis 5 ans. Faire en sorte que les AMAP jouent un rôle social important sur leur territoire, accompagner à mettre en place des cantines bio, jouer un rôle d'éducation populaire sur les territoires, c'est tout ça.
Qu'est-ce que vous demandez aux élus et aux décideurs ?
Eh ben, pas seulement installer un paysan, mais avoir une vision prospective de comment on peut nourrir l'ensemble des populations sur leur territoire, non pas à 5 ans, à 10 ans, mais à 20, 30, 50 ans.
Alors la fête, donc c'est à Aubagne, c'est tout ce week-end à Aubagne, cette fête des AMAP pour fêter les 10 ans. Un message au 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, bonjour aux auditeurs. Donc, voilà 23 ans que la population clermontoise résiste à l'implantation d'un incinérateur d'ordures ménagères. Et pour nous, l'incinération, c'est une fabrique de poison. D'ailleurs, on a 531 médecins de l'agglomération qui s'y sont opposés en attirant donc l'attention des élus sur les dangers pour la santé des populations. Et malgré cela, donc, Suez vient de démarrer la construction de l'incinérateur. Alors nous appelons donc au soutien de notre lutte. Nous sommes en Auvergne, nous sommes des résistants et nous sommes déterminés pour tout faire pour nous opposer à cette construction.
Évidemment, avec des solutions alternatives. Jean-Michel Duclos était responsable du collectif Air Pur. Je feuillette le numéro du mois de mai de notre partenaire Terre Sauvage, qui va vous emmener dans les gorges de la Loire. Et on a aussi, avec vous, Guillaume Le Saffre, un très bel article sur le Martin Pêcheur. Alors, comme nous sommes au mois de mai, moi je suis Martin Pêcheur, je crois que j'ai pas mal de boulot. Quel est mon emploi du temps?
Alors, moi, le Martin Pêcheur, j'ai passé un petit peu de temps à creuser dans la berge d'une rivière ou d'un fleuve, une sorte de tunnel qui mesure à peu près un mètre de longueur. Et au fond de ce tunnel, j'ai ménagé, avec l'aide de ma femelle, une petite cavité de, qu'on appelle la chambre d'édification, où ma femelle a déposé début mai, entre 5 et 7 œufs. Souvent elle en dépose 7.
Et lorsque je nourris les petits, il y a une espèce de balai absolument incroyable, ce qui fait que chacun peut manger à peu près à sa faim.
Oui, alors ça c'est assez curieux, on s'est rendu compte en perçant des trous au-dessus des terriers avec d'infinies précautions et en glissant une caméra par cet orifice, on s'est rendu compte que les petits étaient disposés un petit peu comme les rayons d'une roue de bicyclette et puis qu'ils tournaient comme un barillet de revolver, on peut aussi prendre cette comparaison. Mm-hmm. Chaque fois que l'un est nourri, la petite roue de Martin Pêcheur tourne d'un cran, de manière à ce que le suivant qui n'a pas encore été nourri puisse être juste face à l'entrée du tunnel et recevoir le petit poisson dodu que lui apportera le mâle ou la femelle.
Mais alors moi, le Martin Pêcheur d'Europe, j'ai quand même des qualités assez exceptionnelles. J'ai un battement d'aile quand même extrêmement rapide et j'ai quand même besoin d'eau, rappelons-le.
Oui, alors là, je ne peux pas vivre sans eau. En bon Martin Pêcheur, comme mon nom l'indique, je précise qu'il existe aussi des Martins chasseurs. Hein. Mais là, le Martin Pêcheur, lui, il a vraiment besoin d'eau. Il vibre des ailes, il vole de manière extrêmement rapide. C'est pas un acrobate du vol, hein, mais ça va très très vite. Ça file au-dessus de l'eau, généralement en criant, c'est à ça qu'on le repère. Et puis, je suis capable de faire du surplace. Quand je n'ai pas assez de perchoir pour guetter les poissons, eh bien, je vole un petit peu à la façon, vous savez, des faucons cresserelles qu'on voit sur les bords de l'autoroute. Je fais un petit peu de surplace. Et puis de là, je vois mieux les petits poissons dont je me nourris.
Et je suis une flèche de couleurs incroyable. Alors, la signification des couleurs, parce qu'en général, c'est pour la para, c'est pour attirer la femelle. C'est vrai que c'est très beau, hein, Martin Pêcheur.
Ce qui est assez curieux, c'est qu'il a beau être extrêmement coloré, avec du bleu métallique de deux valeurs, avec un ventre orange, bon, on ne le voit pas forcément toujours très très bien.
C'est vrai.
C'est ça qui est curieux avec certains oiseaux aux couleurs éclatantes, ils se confondent finalement assez bien avec leur milieu. Oui, sinon pour répondre à la question, il est vrai que c'est un signal sexuel. C'est surtout plus les couleurs sont vives, plus ça signale que l'oiseau est en bonne santé et plus il aura de facilité à trouver un partenaire.
Alors on le trouve dans les berges, vous l'avez dit, Guillaume Le Saffre, mais on le trouve aussi alors, sous les ponts, il lui faut quoi? Des anfractuosités
Dans l'idéal, il lui faut de la terre meuble, mais cet oiseau montre des facultés d'adaptation assez étonnantes puisqu'il est capable de profiter d'une, par exemple, d'une conduite d'évacuation désaffectée dans un quai en maçonnerie et de se servir de cette conduite comme une sorte de nichoir artificiel. C'est ce qui m'a donné la chance d'observer en 2008 avec quelques amis la nidification du Martin Pêcheur en plein Paris. Et je dois avouer que c'était une véritable surprise et en même temps ça rassure un peu parce que ça montre à la fois que l'oiseau peut s'adapter et qu'il y a suffisamment de poissons dans la Seine pour pouvoir nourrir une ou plusieurs nichées de Martin Pêcheur.
Une fois de plus, il faut un milieu en bonne santé. Si on a un milieu en bonne santé, on aura les animaux qui vont avec. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider ce Martin Pêcheur? Parce que c'est quand même un animal sauvage, donc est-ce qu'un particulier peut l'aider?
Alors si ce particulier a la chance d'être riverain d'un petit cours d'eau, il peut façonner une sorte de talus, si vous voulez, c'est-à-dire entretenir les berges de manière à ce qu'elles aient une sorte de rive verticale dans laquelle le Martin Pêcheur pourra venir creuser son tunnel. Il existe aussi des nichoirs. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus difficile à mettre en œuvre pour un particulier. C'est peut-être plus réservé aux associations. Ce qu'on peut faire aussi, tout simplement, c'est planter des perchoirs dans la rive également pour lui donner des postes de guet dont il est friand.
Et vous retrouverez ce Martin Pêcheur dans le numéro du mois de mai de Terre Sauvage. Nous y reviendrons. Quels enfants laisserons-nous à la Terre? Ça, c'est une enquête de la Revue Durable, enquête sur l'éducation vers un développement durable en France. Très intéressant dans la Revue Durable qui vient de sortir là aussi au mois de mai. Merci à Patrick Henry et Basile Bocquer, à Marion Lelay et Jean-Christophe Pinaza, à Valérie Ayestaraï qui a réalisé l'émission. Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour, sans oublier son site sur la l'actualité environnementale. La semaine prochaine, nous parlerons d'Ambroisie, nous irons dans le Cantal, nous fêterons la nature, il y aura l'actualité avec Nathalie Fontrelle. Possibilité pour vous d'enregistrer cette émission pendant une semaine et de la réécouter pendant 4 semaines. Denis Chessot, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve demain avec grand plaisir vers 19h54 après les petits bateaux. On essaiera de faire lire vos enfants avec la tulu, mon petit loup. Si, on y arrive. Dans quelques instants, Colombe Schneck, les liaisons heureuses. Allez, opéra.